sommes tous posés cette question. Hein. Donc la parole de Dieu, quand on se pose cette question, à quoi bon continuer, à quoi bon s'attacher au Seigneur, quel avantage j'en tire pour ma vie? Alors oui, la parole répond à cette question. Et en fait, le chrétien jouit d'un grand nombre de bénédictions. Et ces bénédictions, elles sont merveilleuse et extraordinaire. Alors la question qu'on peut se poser au travers de ce partage, c'est une affirmation. Les avantages du chrétien, du croyant, de l'enfant, du Seigneur. On va en introduction lire quelques versets du psaume 73. C'est un psaume, c'est le psaume d'Asaph. Un jour, cet homme, et là ça va nous réconforter ce matin, cet homme, il s'est posé la question également, ce que je vous disais en introduction, à quoi bon? À quoi cela sert-il de continuer avec le Seigneur? Lui, il avait posé ses regards ailleurs et donc du coup, il y avait comme un décalage. Alors on va lire les premiers versets du psaume 73. Tout d'abord, voilà, psaume d'Asaph. Oui, alors il affirme, hein, oui, Dieu est bon pour Israël, et Dieu est bon pour chacun d'entre vous. Amen. Pour les trois ou quatre qui sont convaincus. Voilà, hein, le reste, ça va venir au fur et à mesure. Pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Regardez le verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Et là, on voit la raison. Car je portais envie aux insensés, terrible, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. On va faire une pause. Déjà, en introduction, on s'aperçoit que ici l'homme de Dieu, Asaph, c'était quelqu'un qui avait été donc choisi de la part de Dieu pour conduire le peuple à la louange. Pour conduire le peuple, donc c'était un chantre de l'Éternel. Il avait reçu donc une onction particulière pour amener le peuple à louer Dieu. Et ça, c'est pas une mince affaire, hein, n'est-ce pas, Solange? Évidemment, hein, quand on a cette responsabilité d'amener le peuple, Jonathan, responsable de la louange, on a cette responsabilité de pouvoir conduire le peuple à louer le Seigneur. Et c'était en fait son ministère. Et cet homme-là, donc, à un moment donné, c'est le verset 2 qui nous donne, voilà, quelques informations pour chacun d'entre nous. Il dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Parce que je portais envie aux insensés. Et c'est là où ça répond, finalement, à cette question. Donc, quels sont les avantages d'un chrétien? Et des fois, on pourrait se dire, mais quand je vois, par exemple, un membre de ma famille qui n'est pas au Seigneur, un voisin, il semblerait que tout aille bien pour lui. Jamais ça vous a traversé l'esprit? Mais bien sûr, hein. À un moment donné, il s'est dit, mais c'est pas possible. Et moi, je suis là, je m'accroche au Seigneur, et il semblerait que, pour moi, il n'y ait rien. Et donc, quand on est dans cet état d'esprit, ça va procurer quelque chose, on va dire d'automatique, hein. Ça va procurer une certaine frustration. Cet homme, on peut le dire, Asaph, était complètement frustré à un moment donné parce qu'il je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. On s'aperçoit que le bonheur, on est tous en quête de bonheur, d'avoir ce bonheur réel, concret, profond, au fond de notre cœur. C'est le but de chacun d'entre nous pour notre vie. Et ce bonheur, lui, il pensait que les autres l'avaient. On va s'apercevoir qu'un peu plus loin, finalement, ce n'est qu'une façade de ce que l'on peut voir. Le bonheur ne s'obtient qu'en s'approchant du Seigneur. Il y a même le psaume 32 qui nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui les péchés sont effacés. Amen. Et c'est ce que fait le Seigneur dans notre vie. C'est pour ça qu'on est heureux. C'est pour ça qu'on est dans la joie. Tous ceux et celles qui avaient une condamnation sur leur vie, le Seigneur, à la croix du calvaire, a pris cette condamnation, l'a déchirée, et désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a également quelque chose qui doit nous alerter ce matin. C'est de ne surtout pas porter les regards ailleurs. Parce que quand on porte les regards ailleurs, cet homme, c'est pour ça que je disais qu'il avait une onction spéciale, cet homme a été déstabilisé, un homme de Dieu a été déstabilisé parce que ses regards se sont posés ailleurs. Mais grâce à Dieu, il va se reprendre, hein, donc il fait toute la liste qui est là, et il va se reprendre, ainsi sont les méchants, versets 12, 13, 14. Donc, il se plaint lui-même, il dit, mais chaque jour je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Vous voyez la frustration, ça crée la frustration quand on regarde ailleurs. Et puis, au verset 17, et c'est là où il y a un revirement de situation. Verset 17, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ici, on peut facilement imaginer, hein, qu'à un moment donné, il a eu une révélation de la part du Seigneur. Il dit, mais toi, tu as porté tes regards sur ceux qui apparemment réussissent dans leur vie. Il va rentrer dans la présence de Dieu. Et là, dans cette présence de Dieu, Dieu va lui révéler que finalement, il y a un sort pour les méchants. La question est, qui sont ces méchants ? Les méchants, ce sont ceux et celles qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Parce que, hein, donc, il y a cet état de cœur, cet état d'esprit, le péché qui est là. Et en fait, pour le résumé, le problème du péché n'est pas réglé. Et puis, il va rentrer dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires, que j'eusse pris garde au sort final des méchants, et il fait cette constatation. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais trembler et les mets en ruine, donc révélation du sort final. Certes, ce matin, quelqu'un peut traverser des difficultés, quelqu'un peut traverser des problèmes, et on ne veut pas ce matin, surtout, les minimiser. Mais quand même, la Bible nous dit qu'un jour, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu. Et qu'un jour, ces choses-là, ça va s'arrêter. Ce matin, je l'ai entendu, hein, discutant avec certains. Et puis, voilà, on s'aperçoit que, oui, il y aura un temps plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs. Toutes choses seront enlevées. Et là, on va se retrouver dans la présence de notre Seigneur. Amen. Donc, on voit que, à un moment donné, il se reprend. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de se reprendre. Peut-être que quelqu'un avait posé ses regards ailleurs. Et peut-être que tu es là ce matin et tu vis avec la frustration de te dire, mais Seigneur, et moi, est-ce que tu m'as oublié ? Ça nous est tous arrivé. Hein ? Le Seigneur nous dit ce matin qu'il n'oublie jamais personne. Jamais, jamais. Il tient nos destinées entre ses mains, et nous voulons le remercier pour cela. Et là, donc il y a un revirement, et vous le lirez à la maison, hein, la suite du verset 73, il nous dit qu'il va se reprendre, et puis il va terminer comme il a commencé finalement, en louant le Seigneur, en le remerciant pour sa bonté, pour toutes ces grâces qu'il donne. Vous voyez que quand on vit et on pose nos regards ailleurs qu'au Seigneur, donc on peut vivre frustré, dans l'aigreur. Mais quand on revient au Seigneur, alors ça peut repartir. Et je prie de tout mon cœur, s'il y a quelqu'un ce matin qui est dans cet état-là, il y a une possibilité que ça change. J'ai prié, vraiment, j'ai prié pour que, au travers de ce partage, au travers de la parole de Dieu, certains, ceux à qui ça concerne, puissent vraiment se refocaliser sur le Seigneur. Regardez au Seigneur parce qu'il a encore des bénédictions pour chacun d'entre nous. Alléluia. Le Seigneur n'en a pas terminé avec nous. Un amen timide. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Alors, du coup, Lui, l'homme de Dieu, s'est posé la question du titre, du partage. Quels sont les avantages à te suivre, Seigneur? Alors, on va voir maintenant quels sont les avantages. J'en ai pris quelques-uns, il aurait été tellement. Quels sont les avantages à suivre le Seigneur? Et j'espère que quand on va sortir de ce lieu, on va ressortir vraiment où on va se dire, mais Seigneur, je veux continuer à m'attacher à toi. Je veux continuer à m'accrocher à toi et de faire cette prière dans notre cœur. Seigneur, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur, je veux te suivre jour après jour et je veux continuer cette marche. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Le premier avantage que l'on a quand on vient au Seigneur, tout d'abord, une conscience pure. C'est merveilleux, hein? Une conscience pure, donc c'est la prochaine diapo, Claude, une conscience pure, le pardon et la paix. Si nous héritons, quand on vient au Seigneur, d'une conscience pure, ça sous-entend qu'à un moment donné, elle ne l'était pas. Hein, ça semble tellement, tellement logique. Parce que la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la voix de Dieu en l'homme. Alors l'homme, lui, il va se préoccuper de faire taire cette voix de Dieu qui veut nous atteindre. Et d'ailleurs, ça vient assez vite. Vous avez remarqué quand un enfant est à l'âge de raison, hein, quand il commence à comprendre, il sait déjà ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Le mensonge est là, hein, régulièrement on s'en aperçoit, mais quand on grandit également, on sait quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. On sait que voilà, la conscience n'est pas correcte auprès du Seigneur. Donc, et on essaie d'éteindre et de ne pas entendre la voix de Dieu. Cette conscience, elle juge nos actes. On sait quand nous ne sommes pas à la hauteur, quand notre vie n'est pas à la gloire de Dieu. Ça, on le sait. La conscience, elle juge nos actes. Elle juge nos actions et également nos paroles. Et Dieu est venu pour purifier notre conscience. Quel est l'avantage de suivre le Seigneur? Le premier avantage, c'est que le Seigneur a purifié notre conscience. Donc, et nous devons faire attention à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise conscience et que la mauvaise conscience puisse revenir. Regardez 1 Timothée 4, verset 2. 1 Timothée 4, 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre ou sa conscience. Le même verset, version français courant. Elles se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Donc cette conscience qui est là marquée au fer rouge. Mais on bénit le Seigneur parce que cette conscience, elle a été purifiée. Acte 13, verset 38 à 39. Luc, ici, donc, est en train d'écrire. Il est en train de dire, « Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Alors ici, on s'aperçoit que d'abord, le Seigneur vient. Et l'avantage de suivre le Seigneur, c'est que notre conscience, elle est purifiée et il nous accorde le pardon. Nous sommes pardonnés. Est-ce que vous savez qu'on était tous coupables? D'ailleurs, c'est ce que fait l'Évangile. Hein. Le véritable Évangile, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Le véritable Évangile va nous dire que si on continue comme ça, hein, s'il n'y a pas une repentance dans notre cœur, nous sommes perdus pour l'éternité. Alors certes, ce n'est pas populaire. Hein. On préfère nous dire que tout va bien, qu'on est dans les plans de Dieu, hein, un peu de spiritualité dans nos vies. Et puis, ça va aller. C'est pas ce que dit la parole. La parole nous dit que tous ont péché, et comme tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est une sentence que le Seigneur, et ça, c'est non négociable. Et puis, quand le Seigneur vient, il se révèle à chacun d'entre nous, donc purification de la conscience et également le pardon. La dette est enlevée. Et vous avez remarqué que quand le jour où on a donné notre vie au Seigneur, quand nous avons été pardonnés, on s'est senti léger. Et oui, ça allait mieux. Il y avait comme cette légèreté parce que le poids de la condamnation n'était plus là. Et le Seigneur nous dit que lui, il ne nous condamne plus. Et désormais, nous sommes libres. Et quand il y a le pardon, il y a la paix. Et la paix, c'est quelque chose qui est au fond de nos cœurs. Et c'est un trésor inestimable. Parce que dans les difficultés, être en paix. Évidemment, quand on parle de paix, on ne peut pas s'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus, traverse le lac, une tempête survient. Si vous êtes attentif à l'histoire, vous allez vous apercevoir que tout d'abord, les disciples ont essayé de s'en sortir par leurs propres moyens. Ce que disait un peu le don spirituel tout à l'heure. Jusqu'à un moment donné, ils se sont dit finalement, on va périr. Et on va crier, ils crièrent au Seigneur Jésus. Que faisait Jésus à ce moment-là? Il dormait à la poupe. Encore une fois, petit détail, la poupe était là, il était devant, en fait il était au front. Comme quoi, quand le Seigneur nous donne sa paix, la sienne, pas la nôtre, quand il nous donne sa paix, malgré les circonstances, malgré les vents contraires, malgré le vent, malgré les vagues qui peuvent nous submerger, on peut dormir sur nos deux oreilles. C'est extraordinaire. Si quelqu'un ce matin n'a jamais expérimenté la paix de Dieu, recherchez-la. Recherchez cette paix. Elle s'obtient simplement que par la grâce de notre Dieu. Alléluia. Alors, les avantages du chrétien, une conscience pure, le pardon et la paix. Et ça ne s'arrête pas là. Les avantages du chrétien, prochaine diapo, c'est qu'elle nous donne accès au trône de Dieu. Alléluia. J'ai accès au trône de Dieu. C'est un privilège que le Seigneur m'accorde. Éphésiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Vous voyez ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Souvenez-vous que vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, alléluia, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Amen. Et donc, comme il nous a rapprochés, parce qu'il y avait une distance à cause du péché, le sacrifice de Jésus nous rapproche. Amen. Il nous rapproche du Seigneur. Et nous avons accès au trône de Dieu. Une chose est certaine, si quelqu'un n'a pas de ticket pour le métro, pour prendre le métro, il n'y a pas 50 solutions. Il va essayer de frauder, mais il n'y aura aucun fraudeur dans la présence du Seigneur. C'est juste pour donner l'image. Il faut avoir, se laisser passer, que le Seigneur nous donne. Et vous savez quoi? Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas plusieurs. Le seul laisser passer, c'est le sang, le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire qui nous ouvre cet accès au trône de la grâce. Éphésiens 2, verset 18, qui nous dit « Car par lui, nous avons les uns et les autres, et dans les uns et les autres, c'est tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, accès auprès du Père dans un même esprit. » Alors je sais que la nouvelle vient de vous bouleverser, je vois par votre réaction, mais c'est la réalité. Ici, il est en train de rappeler, parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Nous sommes de ceux qui oublient facilement. Et ça, on se débat avec ça. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, car par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est le Saint-Esprit qui met cette conviction. Et vous savez quoi, je peux m'approcher de Dieu quand je le désire, quand je le souhaite. L'homme est souillé par ses péchés, ça on le sait. Et donc, comme il est souillé par ses péchés, il est indigne, indigne de se présenter devant le Dieu très saint. La barrière du péché a été enlevée pour le chrétien, pour celui qui a donné sa vie au Seigneur. La barrière est ôtée. Maintenant, nous pouvons rentrer dans la présence de notre Seigneur. C'est ce que nous dit Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est pas peu de choses, là. Le voile a été déchiré. Du bas vers le haut. Ah ! C'était voulu. C'était voulu. C'était pour voir si vous étiez avec moi. Hein. Et donc, du haut jusqu'en bas. Pourquoi ? Parce que dans la présence de Dieu, Dieu qui est saint, personne ne pouvait s'approcher. Et nous, le peuple de la grâce, nous avons donc ce libre accès auprès du trône de Dieu. Et donc, comme nous avons, la voie a été ouverte par le Seigneur, verset 22 de Hébreux 10. Donc, approchons-nous avec un cœur sincère. C'est important, hein, la sincérité. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, tout à l'heure, on a parlé de la conscience, d'une mauvaise conscience. Et le corps, si ça nous parle du baptême, lavé d'une eau pure, il va continuer ensuite par rapport au baptême. Donc, il y a ici cette exhortation à nous approcher de la présence de Dieu. Et vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, ça nous marque. Ça ne nous laisse pas dans le même état. Vous vous souvenez de Moïse quand il s'approchait de Dieu, quand il descendait de la montagne, alors pas à cheval, mais quand il descendait de la montagne, il était quoi? Il était rayonnant. La présence de Dieu. En fait, c'est l'image. Il était imprégné de la présence de Dieu. Alors c'est pour ça ici que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il répète, mais approchez-vous, approchons-nous de sa présence sans crainte. Parce que le Seigneur a pardonné nos péchés. Et désormais, donc, nous lui appartenons les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, on veut louer le Seigneur parce qu'il nous donne cet accès au trône de Dieu. Quand vous avez un problème, une difficulté, avant de pouvoir vous alarmer, jetez-vous, allez dans la présence de Dieu. Allez chercher le Seigneur. Et ne venez pas avec vos plans. Hein. Voilà, Seigneur, comment tu dois agir. Ne faites surtout pas ça. Alors, je dis ça parce que souvent, c'est les réactions que l'on a. Hein. Mais en disant, Seigneur, ta grâce, j'ai pleinement confiance en toi. Je sais que ma prière, tu l'entends, tu l'écoutes. Et un jour, à un moment donné, Seigneur, tu vas agir. Quand il y a cette attitude de confiance, ça plaît au Seigneur, le Seigneur agit. Alors, approchons-nous du trône de la grâce, afin de ne plus être pareil, mais être des gens matures, stables, qui, eux-mêmes, le Seigneur va se servir d'eux, afin de pouvoir proclamer le beau message de l'Évangile. Amen. Quel autre avantage j'ai de pouvoir suivre le Seigneur? Tout d'abord, le Seigneur me donne une famille spirituelle. Est-ce que vous savez qu'on est frères et sœurs? Alléluia. Alors, c'est bien plus qu'un titre. Frères et sœurs, quelque chose de particulier. Il y a une affection. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible. Et il n'y a rien de pire que la solitude. Combien d'hommes et de femmes vivent seuls? Cette solitude qui finalement nous bouleverse. Donc, la pire des choses, c'est la solitude. Mais le grand avantage du chrétien, c'est que le Seigneur l'ajoute à son peuple, il l'ajoute à son Église. Alléluia, amen. Et donc désormais, nous appartenons à la famille de Dieu. Le Seigneur nous donne une famille spirituelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons veiller, frères et sœurs. Pas se surveiller les uns les autres, mais veiller les uns sur les autres. Nous en avons la responsabilité. Notre responsabilité, par exemple, hein, je donne un exemple pratique. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas été là depuis... ce matin, je pensais à ça. Hein. Si, par exemple, vous ne me voyez pas à un moment donné à une réunion, voilà, ne priez pas pour les rétrogrades. Je n'ai pas rétrogradé. Hein. Voilà, c'est que je suis ailleurs. Donc, quand quelqu'un n'est pas là un dimanche, ça va aller. Mais quand ça fait plusieurs dimanches, et que dans votre cœur, vous vous dites, tiens, je n'ai pas vu tel frère, telle sœur. Aujourd'hui, avec les moyens que l'on a. Petit message. Coucou, tout va bien? Ça m'est arrivé cette semaine. Vous savez qu'on a un fichier avec les noms des membres de l'Église. Et puis, cette semaine, j'ai vraiment eu à cœur d'envoyer un message à quelqu'un. Ça fait 6 mois qu'on est là, depuis le mois de septembre, que je n'ai pas vu. J'aurais pu le faire en arrivant. Un mois après, 2 mois après, je ne sais pas, j'aurais pu le faire à un autre moment. Je l'ai fait cette semaine. J'ai pris rendez-vous avec le frère. Je suis allé le visiter. En fait, je me suis aperçu que Dieu avait tout planifié. On a passé un moment extraordinaire. Donc aujourd'hui, il ne peut pas être là. Avec cette promesse qu'il allait revenir au milieu de nous et que finalement il était dans cette solitude, quelque chose de terrible, à traverser un problème terrible. Et donc ça a touché son cœur, hein, il avait les larmes aux yeux de savoir qu'on s'intéressait à lui. Que le Seigneur nous aide, pas d'être seulement ou simplement avec un cœur, on se dit tiens, voilà quelqu'un qui est pas là, mais un cœur de compassion. Alors aujourd'hui, il faut faire attention, hein, parce que aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que, hélas, pour certains, si vous allez à envoyer un message, alors comment ça va? Souvent, ça va être traduit comme on veut s'occuper de mes affaires. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, c'est pas de s'occuper de ses affaires. Un jour, je donnais un exemple à quelqu'un. Je lui disais, c'était pour autre chose. Il disait, le Seigneur nous invite à sa table. Il nous invite à venir dans sa présence. Et pour, comme image, je lui avais donné donc cet exemple-là. Je lui ai dit, il a deux garçons. Je lui ai dit, imagine-toi, vous faites un repas de famille. Toi, tu es le papa, tu invites tes deux garçons, puis il y en a un qui n'est pas là. Quel va être ton état d'esprit? Il va y avoir quand même dans son cœur, dans notre cœur, et sans donner d'explication, il va y avoir quand même quelque chose qui vient toucher notre cœur. C'est exactement pareil pour le Seigneur, étant donné que nous sommes ses enfants. Quand quelqu'un n'est pas là, que nous puissions nous préoccuper des uns et des autres. 1 Corinthiens 12, 26 nous dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Ah, certains diront « Pas moi. » Personne n'est exclu. Oui, toi. J'allais dire « Oui, justement toi. » Souffre avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ici, quand je vois ce verset, ça me fait comprendre que nous devons adopter, en fait, la mentalité du royaume. C'est ce que faisait Jésus. Hein. Quand il voyait quelqu'un dans la souffrance, c'était la sienne. Un jour, dans une réunion de prière, hein, donc il y avait un sujet qui était là, qui était délicat. Voilà. Et puis, je lui ai dit, on va prier pour ce besoin. C'était une sœur. On va prier pour la sœur. Je lui dis, mais par contre, s'il vous plaît, prier comme si c'était votre sœur de sang. Pour d'autres, priez comme si c'était votre maman. Et vous allez voir que la prière va changer. Ce ne sera pas, ce sera plus superficiel, Seigneur, bénis-la. On ne sait jamais. Une prière jetée comme ça en l'air, des fois, ça peut marcher. Mais mettre toutes mes tripes, Seigneur, c'est ma sœur, c'est mon frère. Alléluia. Et donc, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et ça, c'est voilà, il y a le contraire ici. Et si un membre est honoré, ce qui sous-entend, si un membre a été guéri par le Seigneur, et comment je souffre du même problème, je suis quand même content pour lui. C'est ça, c'est la mentalité du Seigneur. Dites-moi, est-ce que c'est automatique, ça? Non, hein? Je dis, et moi, Seigneur, pourquoi, en général, c'est ça, hein, on lève le poing, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, c'est ça. J'aimerais vous dire, tu n'as rien fait. Souvent, on se culpabilise de certaines choses. Une chose est certaine, c'est que le Seigneur est en train de travailler pour ton bien. Il ne t'abandonne pas, il est là près de toi. Alléluia. Alors, dans une famille, on le sait, notre devoir, c'est de nous aimer. Bon, vous n'en êtes pas certain. Alors, écoutez, Jésus vous le dit. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Et c'est là, en fait, où on se dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Alléluia. L'amour véritable, vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, on avait partagé sur le véritable sens de l'amour, l'amour qui se donne. Je sais que, par exemple, hier, les jeunes ont partagé sur les prières désintéressées. En fait, c'est ça. Hein. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Regardez ici ce que le Seigneur dit. Vous savez que tous les mots qui sont dans la parole sont soufflés de la part de Dieu, inspirés de Dieu. Je vous donne un commandement. Qui aime être commandé ici? En général, personne. Hein. Alors ici, ça sous-entend, c'est un commandement. C'est-à-dire que ce n'est pas une option. Alors, aimer quelqu'un avec qui j'ai des affinités dans l'Église, ça peut passer. Mais quelqu'un avec qui ça ne passe pas, est-ce que je suis exempt? Pas du tout. Au contraire, je veux faire cet effort supplémentaire. Seigneur, je veux aimer. Comment? Comme toi, tu aimes. Au point de se donner. Alors certes, des fois c'est difficile. C'est quelque chose que nous devons faire. Et quand on le fait, il y a une rétribution à cela, évidemment. Quel avantage, quand on suit le Seigneur, nous avons l'assurance de la providence de Dieu. Ce que je vous disais, hein, tout est lié finalement. Romains chapitre 8, verset 28. Le fameux Romains 8. Si un jour vous n'allez pas bien, lisez Romains 8. Nous savons du reste que toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. En fait, ici, cela nous montre que j'ai l'assurance que Dieu se servira de toutes les circonstances et tout événement dans ma vie pour en produire du bien. Il y a un exemple qui est extraordinaire dans la parole. C'est l'exemple de Joseph. Vous vous souvenez de Joseph? Alors lui, là, il est jeune, il manque de maturité, il reçoit une vision de la part du Seigneur, et puis lui, il l'apporte naturellement, qu'on aurait pu le faire. Hein. Il apporte naturellement. Cette vision que Dieu va lui donner va susciter de la jalousie. La jalousie, c'est terrible. À tel point que on sait par où il va passer. Hein. Toute une vie rejetée, loin de Dieu. Des fois, il faut qu'on lise vraiment avec l'Esprit de Dieu pour que le Seigneur nous communique réellement ce qui s'est passé. Hein. Il est heureux, il est joyeux, il va retrouver ses frères qui gardent le troupeau au loin. On le prend, on le jette dans une citerne. Dans quel état d'esprit il était dans la citerne? Mais pourquoi? L'incompréhension. Et juste après, des Madianites passent. On le sort de la citerne et on le vend. Du jour au lendemain, il est déraciné, se retrouve dans un pays qu'on ne parle pas la langue. Et là, lui, il aurait pu dire, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Il va garder une bonne attitude. Il va continuer à servir le Seigneur. Vous savez l'histoire, vous savez comment elle va se terminer. Avec cette déclaration extraordinaire. Parce que une fois, bon, je la fais courte parce que ça dure quelques chapitres dans le livre de la Genèse. C'est qu'à un moment donné, il y a les retrouvailles. Quelque temps après, il est devenu premier ministre du pays. Les retrouvailles et les frères, ils se disent, mais là, maintenant, il va se venger. Et c'était normal pour un être humain. La vengeance qui est là. Mais lui qui avait un autre état d'esprit. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il faut les dire ces paroles, hein, après tout ce qu'il a traversé. Quel bel exemple. J'espère que vous aimez, hein, comme moi, le passage quand la vie de Joseph. Il y a toujours un moment particulier, hein, quand il se laisse découvrir par ses frères. Et quand on lit ça, voilà, on est touché. Alors, que nous puissions dire, oui, peut-être, il y a des situations qui sont là, sûrement même, où on nous a fait du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Parce que Dieu est un Dieu qui transforme le mal en bien. Alléluia. Parce que Dieu poursuit un plan. Amen. Et peut-être que ce matin, toi, tu es là. Et tu es comme brisé, blessé par certaines situations que tu as traversées. Et des fois, on peut être dans l'incompréhension. En entendant ce verset 20 de Genèse 50, il dit, ouais, certes, il ne nie pas qu'il y avait du mal qui était là, mais Dieu l'a changé. Laisse le Seigneur changer les circonstances. Et ça rejoint Romains chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, selon ses plans. Dieu a un plan. Ne pensez surtout pas que Dieu est perdu. Hein. Ou alors Dieu se dit, ben, oh là là, avec lui, j'y arriverai jamais. Ou avec elle, jamais. C'est pas le Dieu que l'on connaît. Dieu, sans cesse, réitère, nous parle, il nous conduit. Alors, parfois nous ne voyons pas le mal qui est déjà en préparation, le bien qui est en préparation, parce que nous sommes focalisés simplement que sur le mal. Ce matin, nous avons besoin de regarder ailleurs, de regarder dans une autre direction. Alléluia. Alors oui, nous avons l'assurance de la providence de Dieu. Également, ce que nous avons, les avantages que nous avons, c'est la protection des puissances des ténèbres. Colossiens 1, 13. La seconde partie qui nous dit, le Seigneur qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous avons fait un voyage. Ça sous-entend que désormais, nous n'appartenons plus à un certain camp. Nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Et comme nous sommes au Seigneur, alors il nous protège. Et nous savons qu'il y a une lutte spirituelle qui est là. À la seconde où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il y a un combat qui s'engage. Mais merci Seigneur, parce que dans cette lutte spirituelle qui se poursuit, le Seigneur, et il nous l'annonce, hein, Éphésiens 6, 12, nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi ? Les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors il y a un combat qui est là. Mais le Seigneur, il nous dit, la suite de ce passage d'Éphésiens 6, nous dit qu'il est impératif que nous puissions prendre toutes les armes de Dieu. de surtout pas en prendre quelques-unes, et puis dire avec le reste, on va se débrouiller. Hein. Toutes les armes. Dieu nous fournit les armes spirituelles dont nous avons besoin pour ce combat spirituel. Pas par nos propres forces, d'ailleurs, il le dit. Hein. Car nous n'avons pas nous-mêmes à lutter par nos propres forces. Mais avec la force que nous donne le Seigneur, alléluia, on peut combattre. Combattre comment ? La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Les chaussures aux pieds, c'est l'évangile. Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, alléluia. Et quand on a toutes ces armes, on peut aller au combat. Nous avons en plus cette assurance. 1 Jean 4, 4. Vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus avec ces armes-là. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de l'entendre, ça. Bombardé constamment, et des fois on se dit, mais là, voilà, on a cette sensation que l'ennemi est plus fort. Mais si ce verset nous dit le contraire, hein, celui qui est en vous, c'est important en vous, hein, est plus grand que celui qui est dans le monde. Rien ne peut résister à notre Seigneur. Surtout ne doutez jamais du Seigneur et cette lutte. Et donc il y a cette protection des puissances des ténèbres. Et puis, on termine avec quel avantage pour le chrétien, pour le croyant ? L'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Cette espérance, encore une fois, c'est un trésor que le Seigneur nous donne. Et elle vient après un cheminement. Hein. Elle vient après, tout d'abord, premièrement, se reconnaître pécheur. Se repentir. Donc, s'engager avec le Seigneur, et ensuite, il y a une espérance qui vient dans notre cœur, c'est l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que vous savez que nous qui sommes ici ce matin, tous ceux et celles qui ont donné leur vie au Seigneur, on va se retrouver tous au ciel? Alors, à chaque fois que je dis ça, ça me fait penser à cette histoire, hein. D'un ami chrétien, je l'avais dit, il était assis à côté de sa belle-mère, et il me regardait, il me disait, voilà, passer l'éternité avec ma belle-mère, je ne sais pas si je vais pouvoir résister. C'était ça, en fait. Dans ses yeux, je voyais ce message-là, en fait. Alors après, évidemment, c'était pour rigoler. Mais en tout cas, l'espérance de la vie éternelle. Alors on bénit le Seigneur parce qu'il y a cette espérance dans notre cœur, mais quel drame! Quel malheur d'être sans espérance. Éphésiens 2:12. Et on l'a lu tout à l'heure. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, et comment ? Sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est terrible. Et les personnes qui sont sans espérance, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller se détruire. Ils vont essayer d'abréger les souffrances, le chemin par lequel ils passent. Tout chrétien fidèle pourra dire, comme l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie, ce sont les derniers écrits de Paul, il en a écrit, hein. Dieu lui a révélé certains secrets du ciel qui ont été compilés dans ce livre, hein, dans les épîtres de Paul. Et à la fin de sa vie, on connaît ce verset, 2 Timothée 4, 7, 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Trois verbes ici, hein. Combattre, achever, garder. Donc comme j'ai fait ça, j'ai fait cela, il y a une récompense, une rétribution. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, vous qui êtes là ce matin. C'est pour vous aussi. Cette espérance de la gloire nous soutient et nous donne cette paix. Cette paix qui dépasse toute intelligence et nous remplit de joie. Ne vous laissez pas submerger par quoi que ce soit. Que vous soyez connu pour être quelqu'un qui est dans la joie. Vous savez, quand quelqu'un est heureux, ou qu'il est dans la, quand il est dans la joie, on le voit de loin. Ça se voit. Quelles que soient les circonstances de ce monde, gardons la paix et la joie que le Seigneur nous donne. Les derniers versets, par rapport à l'espérance, c'est Pierre qui va en parler. 1 Pierre 1, verset 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, ramenés à la vie, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà verset 3, que le Seigneur nous a régénérés, nous a ramenés à la vie pour une espérance vivante. Nous voulons garder l'espérance que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Et il y a ce fameux petit cœur qu'on chantait à un moment donné. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et je rajoute, ce qui est de loin le meilleur. Focalisons-nous sur l'éternité. Au lieu de nous focaliser sur les choses d'ici-bas. Alors, il y a des choses où on doit, évidemment, s'intéresser. Mais c'est dans cet équilibre que le Seigneur nous aide. Oui, quand ces temps seront passés, nous aurons une éternité de bonheur parfait. Alors, pour répondre à la question que s'est posée le psalmiste au tout début, il dit, mais à quoi ça sert? On trouve ici qu'il y a beaucoup d'avantages. On peut en prendre d'autres. Beaucoup d'avantages que le Seigneur nous donne. Et des fois, on ne vient pas auprès du Seigneur, ou on ne vient pas chercher finalement ce qui nous appartient. Que ce matin, nous puissions nous ressaisir, venir dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, ce matin, je réalise qu'il y a des avantages à te suivre. Alors, Seigneur, je veux tenir jusqu'au bout, je veux m'engager encore et toujours, ne pas rester dans mon coin, mais faire ton œuvre, parce que ce monde en a besoin, il se meurt peu à peu, et le Seigneur est la seule solution à tous les problèmes. Que Dieu soit béni. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Cette parole, elle est extraordinaire, Seigneur. Oui, nous voyons cette transparence aussi, Seigneur, tu l'as voulu ainsi, que cet homme qui t'appartenait, auquel tu avais donné une onction particulière, à un moment donné, il a faibli. Il a commencé à regarder ailleurs. Et cela, Seigneur, peut nous arriver. Peut-être c'est en train d'arriver à quelqu'un. Seigneur, je te prie que par ta parole, ce matin, il y ait une remise en question, un ressaisissement, et que chacun reprenne cette course, cette marche avec toi, Seigneur. C'est une marche, on l'a vu, Seigneur, dimanche dernier, une marche de progrès en progrès. Aide-nous, Seigneur, nous en avons tellement besoin. À toi toute la gloire. Seigneur, je veux te prier pour celui et celle qui traverse cette période difficile. Seigneur, au travers de ce message, tu as voulu révéler que oui, il y a un avantage à te suivre. Et ces avantages, ils sont nombreux. Seigneur, aide mon frère, ma sœur, tous ceux qui sont ici présents à rester focalisés sur toi. Alors, Seigneur, nous savons que nous serons dans ta volonté et que tu vas agir puissamment. À toi, la gloire et l'honneur. Merci, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.